voudrais vous raconter l'histoire de la présence. Ou plutôt, l'histoire d'une femme. C'est une femme que le passé parfois rattrape, mais elle n'est pas nécessairement contre un peu de nostalgie. C'est une femme que l'avenir intéresse, que l'avenir interroge, que l'avenir inquiète, que l'avenir appelle aussi. Mais cette impatience, cette inquiétude, elle ne les redoute pas plus que cela. Chaque seconde de son présent, en même temps, s'enfuit dans son passé et la conduit vers son avenir. Comment d'ailleurs en serait-il autrement ? Sa vie est ainsi faite, d'un côté, des regrets, des remords et de jolis souvenirs. De l'autre, des espérances, des attentes, et puis cette impatience. Alors à l'écoute, songeuse, un peu interdite, l'injonction de notre temps. Il faudrait être pleinement présent, ici et maintenant. Que le passé soit passé et l'avenir évanoui. Il faudrait se retrouver, se ressourcer dans le pur instant présent. À vrai dire, ils lui font un peu peur, ces apôtres de la psychologie positive, qui la fixent comme des serpents en lui parlant de pleine conscience, qui lui répètent à l'envi que seul existe l'ici et le maintenant. Elle, elle rêvasse. Elle est à la fois présente et absente, ici et ailleurs, maintenant et hier. Bien sûr qu'elle la sent, la caresse du soleil sur sa peau, mais cela ne l'empêche pas de se souvenir des belles choses du passé, de cette nuit par exemple, une nuit d'été. La fenêtre était ouverte et on entendait, loin, là-bas, les vagues se briser sur la plage. Finalement, peut-être qu'elle sent au présent la caresse du soleil sur sa peau, d'autant plus qu'elle se promène en esprit dans le jardin de son passé. Elle, elle rêvasse. Elle aime les balades en pleine nature et là encore, au cœur même du présent de sa contemplation, elle s'évade dans l'absence. Elle est là, et puis elle n'est plus là. Et puis elle revient. Et c'est alors peut-être dans l'instant de son retour qu'elle est présente comme jamais. Elle écoute Bachoum dans son salon. Madame rêve. Est-ce qu'elle est ici ou là-bas? Est-ce qu'elle est dans la chanson ou dans son salon? Elle voit des choses au plafond de son salon qu'elle n'avait jamais vues. Elle est plus présente que jamais. Mais c'est parce que la chanson l'a emmenée ailleurs, l'a emmenée loin et qu'elle est revenue. Au fond, c'est parce que sa rêverie l'a emmenée ailleurs qu'elle est là maintenant, avec une acuité de perception nouvelle au beau milieu de son chez-elle. Et quand elle fait l'amour, elle part ou elle revient? Ne s'absente-t-elle pas finalement au cœur brûlant de sa présence la plus intense? Elle ne connaît pas cette phrase de Bergson. « Il n'y a pas de perception, écrit Bergson, qui ne soit imprégnée de souvenirs. » Elle ne connaît pas cette phrase, mais elle est d'accord avec lui. Le pur présent n'existe pas. Ce serait nous simplifier, ce serait nous réduire que nous nous demander d'être simplement présents. Notre présence n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est teintée d'absence, tentée par l'absence. Pour en parler ce matin de la présence, mais aussi de la présence-absence, j'ai la joie de recevoir Emmanuelle De Vos, bien présente en chair et en os dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, pour nous aider à réfléchir à cette belle question. Qu'est-ce qu'être vraiment présent?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Emmanuelle De Vos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ça vous parle, cette idée de pleine présence, comme ça, d'ici, maintenant, d'être complètement là?
C'est ce qu'on entend dès les premiers cours de théâtre. On entend parler de présence, ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas.
Ouais.
Le ici et maintenant, c'est avant d'entrer en scène, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement, de ne plus penser au travail que l'on a effectué pendant les répétitions pour être pleinement à la représentation. Au théâtre, c'est quelque chose qu'on ressent très fort, ouais.
Et ça marche, on y arrive?
Je pense que les cours sont faits pour apprendre ça, notamment les cours, ouais, de théâtre. Et puis ensuite, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus agréable d'être sans mémoire et sans avenir sur une scène de théâtre ou devant la caméra. C'est un pur moment de présent qui n'existe que, enfin, que je n'ai jamais ressenti ailleurs.
Ah bon? Ouais. Vous voulez dire que vous êtes plus présente, par exemple, sur une scène de théâtre ou devant la caméra d'un réalisateur que dans la vraie vie avec quelqu'un que vous aimez ou un ami, vos enfants?
Alors, pour ma part, j'ai une grande, enfin, j'ai tendance à un peu m'échapper. Il paraît que ça, en fait, ça s'appelle de l'auto-hypnose, ouais. dont on racontait. Mais c'est vrai que, alors, pour le coup, devant une caméra, au moment d'action ou sur scène, je me sens ultra présente, ouais, ultra au présent, sans ultra en acuité.
Et finalement, ça, c'est quelque chose comme une intensification de votre présence au monde, et vous ne la vivez pas par ailleurs.
Non, j'ai l'impression, avant de commencer à jouer, enfin j'ai commencé à jouer, c'est assez jeune, j'avais l'impression d'être un ectoplasme, une vapeur d'humanité, je sais pas comment...
Mais ça va mieux.
Très flottante.
Ça va mieux.
Oui, ce métier m'a beaucoup aidé à bizarrement, hein, parce que on dit toujours les acteurs sont des êtres qui ne connaissent pas la réalité, tout ça, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que ça m'a vraiment mis les pieds sur terre.
Ouais, ça vous a reconnecté au réel.
Voilà, ça m'a reconnecté au réel, oui.
Vous avez employé le terme d'ectoplasme.
Oui.
J'ai lu que vous aviez... écrit ou répondu que vous n'étiez pas intéressante, vous étiez invisible, vous avez un sentiment d'invisibilité.
Alors oui.
Ça va assez loin, l'invisibilité.
Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que de manière rationnelle, je vois bien que je ne suis pas invisible, mais j'ai l'impression, comme les autruches, un peu, que si je ferme les yeux, je pense que c'est quelque chose d'enfantin. Si je ferme les yeux, le monde n'existe plus. Quand on joue à cache-cache, c'est ça, hein, les enfants pensent vraiment qu'ils deviennent invisibles. Il me reste ça de mon enfance, je pense, une sorte de... J'ai l'impression qu'on ne me voit pas, sauf quand je suis sur scène ou devant une caméra.
Mais c'est incroyable, parce que cette manière d'intensification de la présence, qui est quand même liée au regard des autres, finalement.
Oui.
Au regard des spectateurs, au théâtre, au regard peut-être du réalisateur. Sartre disait, par exemple, qu'on a vraiment, on peut pas exister hors du regard des autres. D'habitude... on utilise ça un peu pour critiquer le comédien narcissique ou l'acteur autocentré. Et justement, vous le présentez un peu à l'inverse, comme une manière de retrouver la réalité des choses, au fond.
Alors, c'est ma perception. Je pense qu'il y a divers besoins d'être acteur, comment dire. Il y en a qui... On ne cherche pas tous la même chose, hein, en voulant être acteur. Il y a vraiment ceux qui veulent absolument être... être reconnu, vu mais reconnu, voilà, d'autres qui veulent être acteurs pour faire la une des journaux, pour être très 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 dans la lumière. Et puis moi, je pense que avec les mots des autres, ça m'a aidé à exister.
Ça me fait penser à une très jolie histoire qui est celle de Pascal, le philosophe français, qui dit juste avant de mourir, je voudrais être enterré avec cousu dans la doublure de mon veston mortuaire, mon plus beau texte. Et alors, avant de mourir, il laisse un texte, et finalement, c'est pas un texte de lui. C'est un texte, en l'occurrence, de l'Évangile, mais peu importe. En fait, ça veut dire qu'on n'est jamais autant soi qu'avec les mots des autres, finalement.
Mais évidemment, ça, les acteurs le savent très bien. Enfin, c'est quand tout d'un coup, vous entrez... en relation avec, je sais pas, Marivaux ou Yasmina Reza, et que tout d'un coup les mots qu'ont écrit d'autres vous correspondent totalement, c'est une fusion qui est folle, qui est, on se sent déjà reconnu par un auteur avant même d'être reconnu par des spectateurs. Et ça, c'est quelque chose de très agréable.
Donc dans le cas de Yasmina Reza, elle a écrit pour vous, en pensant à vous.
Non, 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 pas du tout, mais
c'est encore plus miraculeux à la limite.
Oui, ouais. Oui, mais ça, tout me parlait. J'ai joué Bella Figura. Qu'elle a écrit pour Ostermayer, c'était une commande, donc pour Nina Ross, je pense, plutôt. Mais ce personnage me correspondait. Non pas qu'il me ressemblait, il me ressemblait pas, je suis pas comme ça dans la vie, mais intimement, ressemblait à l'actrice que je suis, je pense.
Ouais. Et puis peut-être, il y avait au moins une part de vous que ce rôle permettait d'aller chercher, quand même.
Voilà. Ça permet aussi de sortir de soi-même, d'ouvrir plein de petites portes dans son cerveau, de se découvrir même des qualités ou des défauts qu'on ne soupçonnait pas.
Vous avez un exemple concret?
Je crois que il y a des rôles qui m'ont appris que, par exemple, j'avais une certaine fantaisie, ou que j'étais pas vraiment quelqu'un de recommandable par moment.
Ah oui, que vous aviez quelque chose de
que j'avais quelque chose de tordu, de noir, oui. Oui, d'asocial.
Pervers presque dans certains rôles.
Ah non, pervers non.
Non, quand même
non,
pas.
La perversité. Non, on n'allait pas trop loin tout de même. Non, mais oui, ça, forcément vous vous frottez à des humanités différentes qui ne vous ressemblent pas forcément et ça fait des petites étincelles avec votre humanité à vous.
Et je voudrais qu'on revienne un peu à la présence qui est notre question du jour. Il me semble quand même que si par exemple vous contemplez un très beau paysage et que vous êtes complètement au monde comme ça, dans une présence au monde, peut-être avec des personnes que vous aimez, est-ce qu'il n'y a pas là une intensité de présence qui pourrait peut-être rappeler ce qui vous arrive sur scène, ou est-ce que c'est d'un autre ordre?
Alors il y a, quand vous me parlez de ça, je pense plus à la contemplation. Voilà. Et sur scène, la contemplation c'est un petit peu dangereux. Ça peut, on peut partir loin et oublier son texte ou ne ouais. plus. Non.
Mais par exemple, Gérard Depardieu disait qu'il lui arrivait de penser complètement à autre chose pendant qu'il dit son texte, d'être finalement d'autant plus présent qu'il est en même temps absent. C'était un peu ça que j'avais envie de dire au début.
Ouais, mais alors je pense qu'il parle des deux cerveaux qui sont en action lorsque l'on joue. Effectivement, il y a un cerveau qui est là et un autre cerveau qui contrôle un peu. Il y a un cerveau qui peut s'envoler et un cerveau qui contrôle un peu ce qu'on fait. Donc celui qui s'envole, la partie qui s'envole peut penser à complètement autre chose, effectivement, sur scène. Sur scène, hein, parce que au cinéma c'est trop court pour avoir le temps de ça.
Ouais. Puis il y a trop de monde peut-être. À la limite, c'est plus.
Non, c'est une prise, c'est une minute ou maximum. Donc c'est compliqué, ou 3 minutes, quoi, mais c'est compliqué de penser à autre chose quand même.
Alors vous avez eu Francis Huster comme professeur au cours Florent, je crois, et vous avez prévenu, vous avez annoncé en tout cas que vous auriez une carrière lente. Comment vous l'aviez pris à l'époque et comment vous le regardez maintenant?
Alors, je vais rectifier, je pense que c'est François Florent.
Oui.
Plutôt, qui était vraiment mon professeur pendant 2 ans, que j'aime beaucoup, et qui m'a un peu esquissé ma carrière, oui. Et il avait totalement raison. C'est vrai que ça s'est fait lentement, mais sûrement.
Lentement, mais sûrement. Mmh. Et ça a été peut-être un plaisir supérieur, non? De franchir ces étapes comme ça, progressivement, d'être sur son chemin.
Jeune, j'étais très impatiente et je pensais que ça n'arriverait, que ça n'arriverait jamais. J'ai ramé, comme on dit, entre 20 et 26 ans. Et j'attendais, c'était dur.
Il y a eu des moments de découragement?
Oui, il y a des moments de découragement, bien sûr, ouais.
Parce que
mais il y en
avez...
a toujours des moments de découragement.
Oui, mais vous avez, aujourd'hui, eu beaucoup de reconnaissance, beaucoup de récompenses, plusieurs Césars, un Molière aussi, je crois. Mmh. Et donc, cette image un peu du succès, en fait, pourrait cacher non seulement un parcours difficile. Je crois que vous avez arrêté le lycée en première.
Mmh. D'ailleurs,
vous n'avez donc pas rencontré la philosophie en terminale.
Mais non.
Et est-ce que finalement, ça a été quelque part un moteur de connaître ce genre de difficultés, de...
Oui, J'aurais aimé aller au moins jusqu'au bac, je pense. Je ne suis pas fière d'avoir arrêté en première, quoi. Mais c'est vrai que j'étais trop confuse, j'avais du mal à l'école. Mais bien sûr, ça m'a permis de. J'étais une grande lectrice, donc ça m'a permis de faire
arrêté,
mon éducation moi-même.
Pourquoi vous avez arrêté, en fait?
Ben, je pense que j'en ai parlé avec mes parents. Je pense qu'en fait, j'avais une phobie scolaire.
Ah oui.
Maintenant, je serais détectée en tant que phobique. Je paniquais. Je ne savais pas. Je confondais tout. Enfin, j'étais un peu dyslexique. Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais pourtant, j'étais pas bête. Hein,
mais vous lisiez beaucoup.
Mais je lisais énormément.
Est-ce que vous reconnaissez, d'ailleurs, j'ai préparé une petite voix pour vous. Est-ce que vous reconnaissez la voix de cet écrivain?
L'histoire de ma vie, donc, ressemble moins à une biographie qu'à une bibliographie. 10 romans en russe, entre 25 et 40, et 8 romans en anglais entre 40 et aujourd'hui. C'est en 1940 que j'ai quitté l'Europe pour me rendre en Amérique et y devenir professeur de littérature russe.
Vladimir Nabokov.
Voilà, je crois que c'était important comme découverte très jeune pour vous.
Très jeune, oui, je devais avoir 14 ans ou 15 ans et j'ai lu Regarde les Arlequins, le premier roman.
Ouais.
Et ensuite, j'ai tout lu Et justement, quand j'ai quitté l'école, j'avais les deux volumes de ces leçons de littérature, donc à Berkeley, ou je sais plus dans quelle université américaine il enseignait. Et j'ai découvert sa méthode de lecture, qui
c'est
est très particulière,
justement,
de Nabokov.
Il propose un quiz là, pour savoir si on est un bon lecteur. C'est quoi sa méthode?
Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est, par exemple, trop de dialogues dans un livre. Ce n'est pas bon. Si les gens ont besoin de dialoguer, c'est qu'ils ne savent pas décrire une situation. Bon. Et c'est vrai que j'ai gardé ça en moi quand j'ouvre un livre.
Gardons les dialogues pour le cinéma, quoi.
Voilà. Quand je lis un livre sur un présentoir et que je vois qu'il y a trop de dialogues, je le referme. Je dis, non. C'est entré en moi très profondément. Ce qui n'est pas souvent juste, d'ailleurs. Géographiquement situer un roman.
Ah oui.
Oui, par exemple, j'avais découvert Jane Austen grâce à lui, et il racontait qu'il faut absolument dessiner les cottages, les diverses maisons, châteaux qui sont décrits dans Jane Austen, parce que c'est très important. Elle, en décrivant une maison, on décrit aussi la psychologie des habitants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me souviens plus trop.
Parce que Nabokov, justement, cite Flaubert, il dit « Comme l'on serait savant si l'on connaissait bien seulement 5 à 6 livres. » Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai souvent d'ailleurs dit à mes élèves de philo au lycée. Je leur dis « Mais arrêtez de vouloir... Il suffit d'avoir lu 2-3 livres de philo, vraiment, et ça suffit. » Alors, quels seraient pour vous les 5 ou 6 livres fondamentaux dans votre parcours?
Puisqu'on parle de Flaubert, Madame Bovary... Ouais. Qu'il faut relire à tous les âges, parce que je l'ai lu à 16 ans et je l'ai relu après bien plus tard, et je n'ai pas du tout eu la même perception du livre.
Qu'est-ce qui avait changé entre-temps?
L'ironie que je n'avais pas ressentie à 16 ans. Mais en fait, Madame Bovary, à la fois c'est un personnage vraiment tragique, mais un peu ridicule.
Oui.
On le sent pas du tout quand on lit la
première
fois.
Non, à 16 ans, on peut pas comprendre tout ça.
Non, on comprend pas. Alors, un autre livre, Ada ou l'ardeur, de Nabokov. Attendez, il y en a tellement que c'est vrai que ça se bouscule un peu.
Peut-être ceux que vous avez relus le plus.
Le Maître et Marguerite, de Bulgakov. Les Possédés, de Dostoïevski.
C'est du solide.
Tant qu'à... Oui, il faut nourrir tout ça.
Alors, Nabokov ajoute quelque chose de très joli. Le grand écrivain gravit une pente vierge et, arrivé au sommet, au détour d'une corniche battue par les vents, qui croyez-vous qu'il rencontre? Le lecteur haletant et heureux. Tous deux tombent spontanément dans les bras l'un de l'autre et demeurent unis à jamais. D'où la question que Nabokov pose. Dans les bras de quel écrivain aimeriez-vous tomber à jamais?
Nabokov.
Lui-même.
Nabokov, ou sinon... Simenon.
Ah, Simenon. Alors on en parle après cette petite pause musicale.
Quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliable, inconsolable, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps? Regarde l'air, nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui, sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait. Seras-tu là?
C'était Michel Berger, évidemment, seras-tu là?
France Inter, sous le soleil de Platon.
Alors on est toujours avec Emmanuel Devos, sous le soleil de Platon. On va revenir à ce qu'on allait écouter de Simenon, mais d'abord peut-être une réflexion sur cette chanson-là. Vous nous avez raconté qu'il y avait différentes façons d'aller vers le théâtre et vers le cinéma, que peut-être vous, c'était une manière d'être là, d'être enfin là. Vous en pensez quoi de cette chanson?
Je sais pas.
Michel Berger, ça vous parle pas trop?
Si, si, j'aime beaucoup. Oui. Enfin, c'est une jolie, très jolie chanson.
Parce que vous êtes, vous avez souvent dans différents rôles quelque chose, on va dire, d'un peu mystérieux, d'un peu trouble en fait. Est-ce que vous êtes mystique?
Ah non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous êtes très très incarnée, très concrète.
Oui. Après, je peux enlacer un arbre lors d'une promenade, hein. Mais bon, j'aime aller dans les églises parce que voilà, c'est.
Mais si vous enlacez un arbre, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, non, dans cette symbiose. Vous savez qu'il y a des vibrations.
On prend la force où on peut la trouver. Hein. Oui, moi je crois. Oui, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la montagne. Je suis sensible aux vibrations de la nature. Voilà.
Ouais.
Alors peut-être là peut se trouver mon mysticisme.
Bah oui, quand vous dites au cœur de la nature, vous êtes plutôt du genre à dire ça me touche ou à dire c'est beau.
Oh, c'est beau.
Ouais.
Oui.
C'est beau, il y a quand même une vous savez, c'est ce que disait Emmanuel Kant, il dit voilà, on dit c'est beau, ça a l'air de rien, en fait, c'est-à-dire qu'on pose qu'il y a quelque chose d'universel dans notre jugement, que c'est beau pour tout le monde et quelque part on a envie de partager au fond.
Ah bah voilà. Donc j'ai envie de partager.
Ouais, alors justement, partageons un petit peu ce que vous commencez à dire sur Simenon. C'est très intéressant de voir Simenon arriver après Dostoïevski, après Bulgakov. Ouais.
Alors Simenon, c'est un auteur monde. Vous savez, on dit toujours c'est le Balzac du XXe siècle, mais il y a tellement une richesse, des humanités tellement différentes et tellement... qui ne vieillissent pas en plus, hein, parce que pourtant c'est des choses écrites des années 30 jusqu'aux années 60. On dit qu'il y a une misogynie par exemple chez Simenon et tout, mais moi je trouve pas du tout. Au contraire, il a des personnages féminins incroyablement riches et troubles,
fort, ouais.
Bébé Donge ou le personnage, d'ailleurs Chabrol en a fait un film avec Marie Trintignant, Betty.
Ouais.
Des personnages très pas du tout dans la convention. Et j'ai une passion pour le commissaire Maigret.
Oui.
Ah oui. Maigret, c'est un homme inouï, quoi, à la fois d'une immense bonté, il connaît l'humain, et puis cette sorte d'apparence complètement, cette espèce de géant, voilà, comme ça, calfeutré dans son gros manteau et qui apparaît derrière la fumée de sa pipe. Il est très étonnant est très incroyablement romanesque.
Et c'est aussi une écriture très visuelle, très cinématographique.
Très cinématographique.
On voit les choses tout de suite, quoi.
Qui paraît très simple comme ça, mais
pas du tout.
Qui
oui,
est
en
pas
fait,
du tout
très, très maîtrisée, très efficace.
Très efficace, mais pas que, et qui. C'est Colette qui lui avait dit, il avait envoyé ses premiers écrits et il lui avait dit, faites plus simple, gommez, gommez, gommez. Et il a bien appris la leçon.
Il est allé à l'os, quoi.
Ouais.
Pas de gras.
Pas de gras.
Alors vous êtes à l'affiche de Tromperie d'Arnaud Desplechin, adapté de Philippe Roth, encore un écrivain, qui sort en septembre, je crois, et qui est à Cannes. Et donc on connaît un peu l'histoire, c'est un homme qui reçoit sa maîtresse, et puis ils sont dans sa chambre, une chambre d'hôtel, je crois, et puis il parle
C'est dans
beaucoup.
Le bureau, voilà.
Dans
c'est
le bureau.
Oui, dans le bureau à Londres, donc ces deux personnages joués par Denis Podalydès et Léa Seydoux.
Et puis je crois qu'ils parlent beaucoup, ils font pas que faire l'amour. Et il y a cette question qui est posée, enfin en tout cas dans le livre, parce que j'ai pas vu le film, à quoi on est fidèle au fond ? Est-ce qu'on est fidèle d'abord à soi, d'abord fidèle aux autres ou à son histoire ? Vous nous avez raconté votre histoire d'un succès que vous attendiez énorme tout de suite et qui est venu progressivement, et peut-être que ça a été mieux comme ça. J'aimerais vous poser une question sur la fidélité, mais inspirée d'une affirmation assez célèbre de Jacques Lacan, qui dit à la fin de son séminaire « L'éthique de la psychanalyse » que le vrai enjeu, c'est de pas se trahir, de pas céder sur son désir. Alors la phrase exacte de Lacan, c'est « La seule chose dont on puisse vraiment avoir à se sentir coupable, c'est pour autant qu'on a cédé sur son désir ». Et donc, c'est quoi votre fidélité principale ? La question est dure, j'avoue,
oui,
puisque
bah
pour Lacan, ce vrai désir, en plus, est inconscient, donc on ne peut pas répondre.
Bon, ben bah voilà. Donc je me tais.
Non parce que vous pouvez peut-être l'approcher, quand même.
Je crois que, oui, bah, c'est ce que dit Lacan, il a raison, il faut être fidèle à sa... En tout cas, fidèle à ce qu'on pense être... Parce que est-ce qu'on se connaît vraiment ? Mais en étant, en tout cas, je ne sais pas si être fidèle, ça peut, on peut le traduire aussi par ne pas se mentir.
Ouais, par exemple.
Ouais.
Ou alors se rapprocher.
Mais c'est très difficile de ne pas d'être fidèle à soi, de ne pas se mentir, parce qu'il faut avoir une perception très claire de ce qu'on pense et de ce qu'on fait. Et quelquefois, c'est pas si simple, c'est pas si clair.
Ouais, ce que précise Lacan dans le sillage, c'est qu'au fond, on ne sait pas trop ce que c'est, mais quand on le trahit, on s'en rend compte, parce qu'on ne va pas bien.
Oui, oui.
Voilà, on a des symptômes.
Donc c'est trop tard.
Non, justement,
au moment où on se trahit,
pour lui, ce n'est pas ça qu'il veut dire. C'est que c'est le bon moment pour commencer une psychanalyse, et ce n'est pas trop tard, parce qu'après, grâce au fait qu'on a trahi ce désir, on va pouvoir s'en rapprocher et vivre mieux en se rapprochant de son désir. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au côté tragique de Lacan qui dit qu'il faut trahir son désir pour l'identifier. On peut peut-être être à l'écoute de soi. C'est aussi ça, la présence, hein, le sujet de l'émission. On peut être à l'écoute de soi, de son corps, de ses émotions, ses symptômes aussi, pour se rapprocher de son désir. Est-ce que vous croyez que le cinéma vous aide à ça ?
En tout cas, le cinéma en tant que spectatrice, oui.
Ouais, ah oui, c'est intéressant.
Ouais. Je pense qu'il y a des films qui vraiment vous rassemblent, ou vous remettent au milieu de ce que vous êtes.
Vous avez vécu ça récemment avec un film ?
Oui, je pense que j'ai vu Nomadland dernièrement, de Chloé Zhao, que j'aime beaucoup, qui est une réalisatrice formidable. Et je pense que beaucoup de gens, en voyant ce film, enfin moi ça m'a fait cet effet, on se dit, mais on peut vivre comme ça, on peut vivre avec très peu et comprendre peut-être le nomadisme et comprendre qu'il y ait des gens et que pourquoi pas soi ayons envie de plus de liberté, de mouvement, de ne pas s'attacher aux objets, d'être voilà. Mais j'ai par exemple des exemples. Les films de Woody Allen font beaucoup cet effet-là. Les films de Woody Allen vous remettent vraiment en question.
Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'en tant que spectatrice, vous avez plutôt ce rapport-là au cinéma, ça vous rapproche de vous-même finalement, de votre axe, ça fait résonner des choses essentielles pour vous. En revanche, en tant que comédienne ou actrice, plutôt vous échappez, peut-être vous autorisez à vous éloigner.
Oui, on a l'impression de s'éloigner de soi si on interprète un personnage qui ne vous ressemble pas du tout. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous avez livré une chose très très intime de vous que vous ne connaissiez pas forcément. en interprétant. Par exemple, mon exemple, c'est Violette. Violette Leduc, que j'ai joué pour Martin Provost. Et où je n'avais aucun rapport avec cette femme. Et finalement, en l'interprétant, elle m'a apporté énormément. Elle m'a révélé l'écriture. Elle m'a révélé l'amour qu'on peut avoir pour sa mère, des choses comme ça, qui est un amour compliqué. Et ça m'a, c'était une sorte de psychanalyse, quoi, vraiment.
Ça vous a, oui, c'est vraiment une définition d'une belle rencontre. Hein.
Oui.
C'est quand on se rencontre à l'occasion de la rencontre de quelqu'un d'autre, au fond.
Oui, c'est. Bon, Violette Leduc, c'est une écrivaine, hein, donc forcément, on va chercher quelque chose en soi d'écrivain quand on doit interpréter quelqu'un qui écrit. Et puis, voilà, ça.
Mais
ça...
vous disiez aussi dans le rapport à la mère. Ça vous a permis de vous rapprocher d'un amour complexe que vous avez pour votre mère, c'est ça que vous avez dit?
Oui, c'est. Alors, c'est pas du tout le. Enfin, c'est pas en miroir, mais ça m'a permis de mettre des mots sur cet amour immense dont on se rend pas compte parce que c'est quotidien. Mais l'amour immense qu'on a pour sa mère et qu'est-ce que ça induit dans votre vie?
Si on regarde toute votre filmographie et si on essaye de poser une question un peu bizarre comme ça, mais avec le recul, finalement, quel est le rôle qui vous a le plus appris sur vous-même?
Je dirais Anna Petrovna, quel personnage que j'ai joué au théâtre, c'est dans Platonov, par sa vaillance, elle m'a donné beaucoup de courage. Violette, et peut-être Carla dans Sur mes lèvres.
Oui.
C'est vraiment la rencontre. Mais qui c'était presque un autoportrait.
Ah bon?
Pourtant, Audiard me connaissait pas, mais c'était un autoportrait. Ouais. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui se sent invisible et qui tout d'un coup se révèle, quoi.
Ouais. Apparaît, quoi. Surgit.
Apparaît, surgit et prend les choses en main. Et ça a correspondu à peu près à ma carrière. À ce moment-là, c'est révélé aussi.
Et donc, c'est finalement votre histoire, c'est celle d'une sortie progressive de l'invisibilité. On va dire une entrée dans la lumière, presque une épiphanie. Mais vous savez, il y a un très très beau livre de Merleau-Ponty qui s'appelle « Le visible et l'invisible ». Et il dit qu'au fond, le visible ne se donne que sur fond d'invisible. En gros, c'est même valable pour soi. Hein. S'il n'y avait pas d'invisibilité, il n'y aurait pas de visibilité. Donc finalement, peut-être que cette manière d'apparaître est la seule qui vaille, en fait. On sort tous de l'invisibilité. On ne fait que faire ça, en fait.
Oui, mais tout le monde...
Et d'ailleurs, on a ce besoin de reconnaissance qu'on a, il est très noble. Parfois, on critique ça, non, voilà, c'est un peu une obsession du regard de l'autre. En fait, non, c'est peut-être le désir humain le plus profond, en fait. Se voir reconnu, tout simplement dans
ça
sa valeur, dans son existence.
Ça commence enfant. Enfin, c'est un enfant qui n'est pas reconnu, sera malheureux toute sa vie. Enfin, il y a quelque chose qui lui manquera. Et d'ailleurs, chez les acteurs, il y a beaucoup de ça, de béance, de reconnaissance, de visibilité. Des histoires personnelles assez douloureuses qu'ils pensent réparer en exerçant ce métier.
Et est-ce que d'ailleurs c'est pas le problème aussi, parce que au fond on pourra jamais réparer complètement. Ce que pour revenir à Lacan, alors aujourd'hui on parle beaucoup de Lacan, je sais pas pourquoi. Vous savez, il a fait un texte magnifique sur le stade du miroir qui montre que l'enfant, la première fois qu'il se reconnaît au miroir, eh bien il va interroger l'autre, en général sa mère, son père, sa nounou qu'il porte dans les bras. Et dans la première seconde de sa conscience de lui-même, il a un doute, il n'est pas sûr que c'est lui. Et du regard, il interroge l'autre et lui dit « Est-ce que c'est moi ?» Et l'autre, des yeux, le rassure en disant « C'est toi ». Mais au fond, on va passer sa vie à chercher cette réponse. Et peut-être le leurre de certains métiers, ça peut être le métier d'acteur, mais aussi peut-être d'écrivain, d'auteur, c'est de croire qu'on va être complètement rassuré, alors qu'au fond, on ne le sera jamais.
Mais je pense que c'est une quête infinie. Peut-être, ouais. Mais c'est pour ça que... Oui, je pense que certains acteurs ont une vraie... une souffrance à courir après cette reconnaissance, ouais.
Et est-ce qu'on peut d'ailleurs passer à la réalisation pour poursuivre cette quête? Est-ce que c'est aussi votre cas?
Alors, je pense qu'à la réalisation, c'est autre chose. Parce que tout d'un coup, vous n'êtes plus... L'image n'a plus d'importance parce que vous allez filmer les autres. Alors après, il y en a qui se filment aussi. Hein. Il y a des gens qui passent à la réalisation, mais qui ouais. Voilà. Moi, c'est un projet que j'ai, mais je ne me filmerai pas. Mais c'est une autre façon de raconter.
Vous êtes sûr?
Ah oui, oui, je suis ouais. sûre. Ouais, ouais. C'est une autre façon de raconter son. Alors là, je pense vraiment son inconscient.
Ah oui.
Ouais. Et on se rend même pas compte en écrivant. Bah, j'ai écrit un scénario et
Le scénario, c'est les deux femmes photographes, c'est ça?
Oui.
Et un road.
Road movie ouais. Au début du siècle, du 20e siècle. Je m'aperçois à chaque fois que je relis le scénario, m'apparaît des choses tellement intimes et mais bien cachées. Ouais. Je me suis bien camouflée derrière ces deux jeunes femmes.
Bah, on écrit pour savoir ce qu'on pense en fait.
Ah, je pense vraiment, oui. Ça, c'est ce que dit Marguerite Duras.
Oui, oui, bien sûr.
Oui. Oui, on écrit pour savoir ce qu'on pense. Oui.
Alors, on va en reparler de cette très belle idée qui nous permet de sortir du fantasme de maîtrise, d'anticipation. On écrit pour savoir ce qu'on pense, mais d'abord un petit peu de musique. C'était General Electric's Party Like a Human.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
On est toujours avec Emmanuel De Vos et on est en train de parler de Marguerite Duras et de cette idée qu'on écrit pour savoir ce qu'on pense. Et Emmanuel me reprenait en disant non, elle dit pas ça. Elle dit on écrit pour savoir ce qu'on écrit, ce qui est beaucoup mieux.
Ben oui, parce que c'est plus Duras dans le sens où c'est tout d'un a priori complètement incompréhensible. Et puis au bout de 2-3 secondes, dit d'une totale vérité. Voilà, d'une évidence absolue. Parce qu'on écrit, parce que vous disiez tout à l'heure, pour savoir vraiment ce qu'on pense au fond du fond du fond. Mais tant qu'on n'a pas écrit, on ne sait pas.
Est-ce que c'est pareil quand on tourne finalement? C'est pareil quand on tourne?
C'est Alain Resnais qui disait « Tournons pour voir comment ça tourne ».
C'est beau comme phrase, ça.
Oui, c'est très beau.
Tout ça, ça nous aide, je crois, aujourd'hui. Vous savez, on a une époque où on voudrait toujours avoir prévu ce qui va arriver, avoir anticipé, avoir rationalisé. Et en fait, l'art nous montre que les choses arrivent à partir du moment où on se lance. Il y a une très belle phrase d'Alain. J'aimerais savoir ce qu'elle vous évoque, philosophe français, qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ».
Ah ben, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est que... C'est bien beau de réfléchir, mais voilà, à un moment, il faut y aller et voir qu'est-ce que ça produit.
Voilà, et évidemment, c'est aussi les belles rencontres que vous avez évoquées. Elles produisent des choses qui ne sont pas ce qu'on attendait. Elles sont, au sens propre, toujours des rencontres de l'inattendu. Vous êtes à l'affiche d'un film de Claire Simon sur Marguerite Duras, qui va sortir prochainement. Je voudrais parler de Duras. Qu'est-ce qui vous touche ou alors ne vous touche pas dans cette figure de Duras ?
Alors, Duras, enfin, comme beaucoup de gens, il y a vraiment des fulgurances, des chefs-d'œuvre, et puis des choses que je ne dirais pas que c'est pas bien, mais je ne comprends pas du tout. Je pense que c'est le personnage qui est aussi opaque. Et mais il y a, j'ai commencé par le barrage contre le Pacifique, qui est une merveille, et puis les petits chevaux de Tarquinia et la vie matérielle, voilà. Mais sinon, j'ai du mal avec les autres.
Peut-être sa réflexion sur la vieillesse, non ? Je trouve que moi, ça me touche beaucoup quand elle montre à la fois une sorte de peur de la déchéance, en même temps que le fait de se rapprocher de l'essentiel.
Ah oui, oui, je pense qu'elle a compris quelque chose de la vieillesse. Alors, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est dans la vie matérielle. Elle a vraiment des phrases sur l'alcool, sur le ce que c'est que l'alcool, sur le désordre par exemple.
Ah oui,
parce que c'est vraiment la vie matérielle. Donc elle parle de choses matérielles, elle parle de soupe aux poireaux, de comment tenir une maison, et elle parle que on ne peut pas élever des enfants dans le désordre et la saleté. Ce n'est pas possible. C'est que la femme, c'est pas du tout. Maintenant, elle se ferait déchiqueter. Hein. Elle dit la femme doit tenir son foyer. En fait, c'est ça qu'elle dit.
Mais c'est pas là où elle dit aussi que la femme au foyer est une sorcière.
Oui. Elle a la cuisine, par exemple, c'est l'endroit de la femme et c'est elle qui doit tenir ça parce que sinon tout s'écroule. C'est comme quand elle dit il faut beaucoup aimer les hommes, sinon ce n'est pas possible.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est dans ce livre qu'elle. Il faut beaucoup aimer les hommes, sinon ce n'est pas possible. Et ça paraît un peu des phrases, un peu des punchlines, un peu ridicules. Et puis quand on réfléchit, quand on s'immerge un peu dans la phrase, c'est d'une limpidité, elle a raison, c'est vrai.
En tout cas, elle ose dire les choses d'abord comme elles viennent, je pense aussi, sans avoir beaucoup pensé auparavant. Et puis il y a un effet de vérité du simple fait que c'est dit. Dans ce film de Claire Simon, vous jouez Michel Manceau, la journaliste qui interviewe Yann Andrea. Et la première phrase de Yann Andrea, c'est « Je voudrais parler de Duras ». Et ce rôle, ça vous a révélé quoi sur vous-même ? Ce rôle de journaliste qui interviewe ?
D'abord, c'est un rôle d'écoute.
Ouais.
Et c'est quelque chose de très difficile d'écouter. Et j'ai adoré écouter Swan Harlow, qui joue Yann Andrea. Et je sais pas, c'était des longs plans séquences de 30 minutes, 45 minutes. C'est fou. Au cinéma, c'est très, 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 très rare. Avec le numérique, maintenant, on peut le faire. Et c'était comme des plongées, quoi, à chaque fois. Ça m'a appris sur moi. Je sais pas encore, ça, parce que bon. Voilà, mais ça, en tant qu'actrice, d'écouter Swan,
il y avait donc de l'improvisation.
Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Non, tout le texte est c'est vraiment la retranscription de cette vraie interview.
J'aimerais vous poser une question et je vais essayer d'écouter moi aussi. Et c'est dur d'écouter vraiment d'ailleurs.
Ah, c'est très très difficile.
Ce qu'on appelle l'écoute active, c'est une manière d'être présent en se dessaisissant de soi, en étant tout oui justement. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités et qui a l'air un peu brutale, un peu frontale, mais je vous la pose quand même. Vous êtes l'enfant de quoi ?
Bon, je suis l'enfant d'un amour.
De l'amour de vos parents ?
Oui.
C'est déjà pas mal, hein ?
Bah, c'est déjà très très bien. Je suis l'enfant de mes rêves d'enfant. Voilà, en deuxième, je dirais ça.
Ouais. Et ces rêves, c'est des rêves conscients, c'est des fantasmes inconscients. Par exemple, dans ce désir de monter sur scène, de prendre la lumière alors qu'on craint d'être invisible, c'était conscient ou ça relevait plutôt du fantasme inconscient qui vous tenait ?
Non, c'était conscient. J'ai conscience très. J'avais un jeu quand j'étais petite, j'avais une grande armoire dans ma chambre, une armoire vitrée. Et le jeu consistait à s'approcher très doucement de ce grand miroir, de se regarder dans les yeux. Le plus longtemps possible, parce que je pensais que si je me regardais en tenant un maximum de temps, j'allais découvrir qui j'étais.
C'était un jeu vraiment régulier. C'est intéressant. En fait, c'est le contraire. Souvent, on a un sentiment d'étrangeté qui grandit à mesure qu'on se fixe.
Mais ça ne fonctionne pas du tout. Et c'était très troublant.
Ça fonctionne pas, sauf à penser que c'est ça la vérité. Que plus on se connaît, moins on se connaît.
Ouais. Donc, on entre dans le pays des paradoxes, quoi.
Ouais. Ça me rappelle une anecdote que vous avez racontée, je me souviens, il y a longtemps, chez Thierry Ardisson, que vous aviez un petit amoureux, je crois, toute jeune, en classe primaire. Et visiblement, l'histoire d'amour s'annonçait bien. Et puis, votre mère vous a coupé les cheveux très courts. Et vous êtes apparu le lendemain. Et finalement, il vous a plus jamais regardé. C'était un trauma d'enfance important.
Ah oui, effectivement. J'ai pas rêvé. Oui, non, c'est vrai. Mais j'ai raconté ça.
En tout cas.
Folle. Ouais. Oui. Ah oui, c'était une dépossession. C'est vraiment c'est Samson et Dalila. Enfin, c'est quand on vous coupe les cheveux, vous perdez votre. Enfin, j'étais plus la même.
Parce que du coup, c'est encore une expérience d'invisibilité, finalement.
Oui.
Brutal.
Brutal, ouais. Oui. c'est bizarre de raconter ça. Bon, oui.
Et alors, quand je vous demande, vous êtes l'enfant de quoi, et que vous me répondez l'enfant de mes parents, l'enfant de mes rêves d'enfance, c'est aussi par rapport aux lectures que vous avez faites, par rapport aux rencontres avec des réalisateurs. Finalement, vous êtes. J'ai vu que vous aviez une définition de la philosophie comme une manière de se saisir de sa destinée. Sa destinée, ça veut dire qu'on s'invente ou alors qu'on reçoit quelque chose qu'on ne peut pas changer ?
C'est-à-dire, je pense que c'est plus être poreux à ce qui vous arrive. Et surtout, alors moi c'est ma philosophie, ne pas vouloir.
Oui.
Ne pas vouloir. Je sais que pour moi, ce qui est valable que pour moi, quand j'ai voulu provoquer des rencontres, être... très active comme ça, et ben ça ne fonctionne jamais. Donc j'ai compris assez tôt que pour moi, il valait mieux, comme dit Renoir, le père à son fils, le cinéaste, il faut être comme un bouchon sur l'eau.
Ouais, se laisser porter.
Se laisser porter, mais ne pas couler. C'est un bouchon.
Au gré des courants contraires aussi parfois.
Voilà.
Au risque de l'incohérence d'ailleurs.
Au risque aussi d'aller là où le courant emmène tout le monde.
C'est
donc
vrai.
Il faut quand même être un peu vigilant. Mais en tout cas, ne pas être dans la... Oui, ne pas vouloir, je ne sais pas comment le dire.
Non, mais c'est très beau. C'est très beau de dire ça. Alors qu'on est élevé souvent au biberon du « quand tu veux, tu peux ».
Ah, mais
de
pas du tout.
De l'insistance volontariste.
Oui, mais non, ma famille, ce n'était pas comme ça. Non.
Mais alors, si je ne veux pas, peut-être qu'on peut dire « je désire » quand même.
Oui,
voilà.
Mais je pense que nos désirs les plus profonds sont entendus, sans même qu'on ait besoin de les clamer. ni de les écrire, ni de faire des appels du pied dans les journaux, dans les interviews. En disant... Moi, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question, avec qui aimeriez-vous travailler? J'avais l'impression de faire un appel d'offres et de quelque chose un peu sale, un peu dégoûtant. Donc j'ai jamais rien dit. Enfin si, j'ai écrit une lettre un jour à quelqu'un. Mais voilà. Donc je sais que ce que je veux vraiment, même si je ne sais pas ce que je veux vraiment, ça arrive.
En tout cas, ça arrivera d'autant plus que vous ne mettez pas la pression au sens volontariste ou volontaire.
Non.
D'ailleurs, on peut aussi penser que à partir du moment où je veux très fort, bah, c'est que quelque part mon désir est pas assez fort, parce que le désir il est là.
Oui.
Et la volonté c'est un rapport de force, alors que le désir c'est d'accueillir ce qui est et de laisser les choses se passer.
Ouais.
Il y a peut-être quand même, on peut peut-être apporter une petite nuance, peut-être qu'il y a des premiers pas à faire, voilà, pour qu'après la vie prenne la suite. Donc peut-être que ce qui quand vous dites ne pas vouloir, c'est ne pas vouloir trop, c'est ne pas vouloir dans l'insistance, mais c'est peut-être quand même vouloir un peu pour que le désir s'enclenche.
Oui, c'est
quand vous êtes au cours Florent, quand voilà, il y a quand même de la volonté.
Oui, mais j'y suis pour apprendre mon métier, j'y suis pas pour et j'y suis pour rencontrer des gens, pour ne pas être seule. Mais après, je sais pas, d'aller à des premières ou de se montrer beaucoup pour qu'on pense à vous. Je pense que ça fonctionne un peu, mais si c'est trop une souffrance de faire ça, je crois qu'il vaut mieux pas se comporter comme beaucoup se comportent.
C'est sûr. Et alors, je voudrais justement partir de cette idée, comme ça, ne pas trop vouloir, pour dresser en guise de remerciement pour nous avoir rejoints sur le soleil de Platon, peut-être non pas votre portrait, mais le portrait de votre philosophie de la vie, en tout cas celle qu'on a devinée à l'occasion de cet échange. Finalement, vous êtes dans une philosophie non pas du rapport de force et de l'insistance, mais plutôt de l'accueil des forces en présence. J'aurais envie de dire une philosophie de la disponibilité aussi. Voilà, quand on veut trop, on ne se rend pas disponible parce qu'on veut simplement ce qu'on veut. Et donc on ferme toutes les portes. Quand on se rend disponible, ben on se rend disponible à ce que vous avez très bien décrit, hein, l'inattendu. Ce qui ne correspond pas à son attente, si on est trop volontaire, on a trop d'attentes, donc on est par définition pas disponible à l'inattendu. On a aussi senti dans votre parcours quelque chose comme la belle vertu aussi de certains échecs, peut-être de la compensation, avoir arrêté le lycée jeune, et puis lire seul, et puis faire les bonnes rencontres. Et enfin, quelque chose comme un mystère, mais dans l'incarnation, beaucoup plus que dans le mysticisme, quelque chose de réel, quelque chose d'ancré. Et finalement aussi, eh bien, toute l'histoire d'une sortie progressive de l'invisibilité. Heureusement, il reste un peu de mystère, et c'est sur fond de cet invisible que vous vous êtes rendu visible. Emmanuel De Vos, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Tristan Gratalon, à la programmation musicale Valentine Chedebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours à 10h du matin sous le soleil de Platon. À suivre après le Flash Info, place du marché avec Aurélie Sfez. Bonjour Aurélie.
Bonjour Charles, je suis sur le port de Saint-Pierre, cette petite île d'outre-mer. Juste en face, il y a sa sœur Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon, c'est par ici, un petit bout de France mal connu qui flotte à côté de nos cousins canadiens. Et on s'est installé là, au bout du monde.
Vous avez bien de la chance. Merci Aurélie Sfez.